Place Info.
Bonsoir Thomas Piketty.
Bonsoir.
Votre livre arrive au cinéma, Le Capital au XXIe siècle. Énorme succès en librairie, vous en avez fait un film et depuis ce matin, il est donc dans les salles. On va d'abord parler, avant de parler de ce film, de la Convention citoyenne pour le climat qui a rendu hier ses propositions. Pour les financer, elle a des idées. Par exemple, taxer davantage les hauts revenus et pourquoi pas créer un impôt écologique sur la fortune, une sorte d'ISF écologique. Est-ce que vous soutenez cette idée, Thomas Piketty ?
Oui, ils ont raison. Ça fait partie des propositions intéressantes. Et en même temps, ça reste un petit peu flou. C'est-à-dire, voilà. Pour moi, pour vous dire le fond de ma pensée, c'est que, moi, on reste un peu sur sa fin parce que sur tout ce qui concerne le financement, ou aussi, d'ailleurs, le chiffrage global de la réduction d'émissions carbone qu'on peut espérer de l'ensemble des mesures, il n'y a pas de chiffrage global qui est proposé. Il n'y a pas de budget global des mesures. Or, on sait que c'est quand on rentre dans ces détails-là, enfin, qui ne sont pas des détails, d'ailleurs, que les choses deviennent difficiles. Il faut quand même se rappeler que le point de départ de cette convention, c'est une très forte mobilisation sociale suite à un très fort sentiment d'injustice fiscale quand il y a eu cette augmentation de taxes carbone où les Français s'apprêtaient à payer de l'ordre de 5 milliards d'euros de plus en taxes carbone chaque année, l'année même où il y avait 5 milliards d'euros qui sortaient du budget pour financer la suppression de l'impôt sur la fortune et de l'impôt progressif sur les revenus du capital. Et ça a créé un sentiment d'injustice très fort avec un mouvement social dont on se souvient. Et par rapport à ce point de départ, disons que le point d'arrivée, bon, il y a une demande de plus de justice, il y a une demande pour rétablir une forme d'impôt sur la fortune ou d'impôt écologique sur la fortune, mais c'est pas chiffré. La question de la taxe carbone n'est pas réabordée, alors que je pense qu'une des leçons de cet épisode, c'est qu'on a besoin, de beaucoup plus de justice fiscale. C'est-à-dire, moi, je propose dans mon dernier livre, Capital et idéologie, la création d'une carte carbone individuelle qui permettrait d'interdire les plus hautes émissions carbone individuelles, de mettre très fortement à contribution les contributions carbone très importantes et à l'inverse de protéger les personnes.
Et beaucoup regrettent aujourd'hui l'absence de ce sujet dans les propositions. Mais finalement, pour résumer, quand vous voyez ces 150 propositions environ, qu'est-ce que vous vous dites ? Déception, c'est ça ?
Je dirais pas jusque là parce qu'il y a des propositions intéressantes, en particulier sur les normes et sur l'interdiction graduelle du moteur à essence pour les voitures, du transport aérien sur les vols domestiques. Et ça fait partie de la solution. Mais ça, c'est pas suffisant. C'est-à-dire, je pense que ça reste insuffisamment précis et ambitieux sur le financement d'ensemble et sur la cible globale de réduction d'émissions carbone qui était quand même la demande. C'est-à-dire, la demande, c'était comment on fait pour réduire de 40% les émissions carbone d'ici 2030 dans la justice sociale. Et sur ces deux questions, l'ampleur de la réduction des émissions et la justice sociale, on reste un peu au milieu du gué, et je pense qu'on voit là quand même les limites de l'exercice.
Des mesures concernent le capital, ça vous intéresse ça aussi, notamment cette proposition d'utiliser la fiscalité pour transformer les entreprises, pour les rendre plus écologiques finalement. Proposition d'une taxe de 4% sur les dividendes au-delà de 10 millions d'euros distribués pour transformer l'outil productif, pour le rendre plus vert. Est-ce que ce serait efficace ?
Alors là, regardez, c'est intéressant. Ça, c'est une des rares propositions fiscales où il y a eu explicitement un vote de dire on va avoir une taxe de 4% sur les entreprises qui versent plus de 10 millions d'euros et 2% en dessous de 10 millions d'euros. Pourquoi ? D'où viennent ces chiffres ? Combien ça va rapporter ? On ne sait pas. Sur l'impôt sur la fortune, là, il n'y a aucune proposition chiffrée. Ça vient dans une note de synthèse qui a été ajoutée à la fin du processus de vote sur les 150 propositions, qui n'est pas vraiment une des 150 propositions au sens strict, donc n'a pas fait l'objet d'un vote séparé et il n'y a pas de mesure précise. Alors pourquoi cette mesure chiffrée sur les dividendes, enfin dont on ne sait pas d'ailleurs combien elle est censée rapporter, et rien de chiffré sur l'impôt sur la fortune ? Moi, très franchement, là, je sais pas le processus, disons, qui a conduit à ce choix-là. On a quand même l'impression qu'on a cherché à éviter les sujets qui fâchent le plus, et en particulier d'avoir un vote explicite sur les questions de rétablissement de l'impôt sur la fortune. J'en veux pas aux participants. Je pense que c'était un exercice très difficile, mais disons la façon dont tout ça a été organisé à la fin ne permet pas de définir ce que pourrait être vraiment un objectif global de justice sociale face à la transition énergétique, ce qui est quand même la question centrale et très difficile à laquelle on va devoir faire face.
Depuis ce matin, Thomas Piketty, votre film est donc dans les salles. C'est la suite, le prolongement de ce livre à grand succès. Vous avez écrit le livre et le film, évidemment, avant l'épidémie. Est-ce que vous voyez les choses exactement de la même façon sur le capital, sur le capitalisme et sur ce qu'il faudrait pour le transformer? Est-ce que ça change votre vision, finalement?
Oui, je pense qu'on est tous, très, très affectés par ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on se rend compte d'abord de l'extraordinaire fragilité de nos sociétés, de nos systèmes sociaux. C'est-à-dire qu'on pensait avoir un système de santé très, très performant. On se rend compte, on apprend au passage que le nombre de lits hospitaliers a diminué au cours des 10 dernières années, qu'on n'est pas préparé de la façon dont on l'espérait. Donc, tout ça, ça pose plein de questions. On se rend compte que notre système de transferts sociaux, d'assurance chômage couvre bien peut-être ceux qui sont en contrat à durée indéterminée, mais tous ceux qui sont sur du travail temporaire, des statuts d'auto-entrepreneur, de CDD, on a des personnes qui ont été très mal couvertes et qui sont très très mal couvertes par cette crise qui illustre la violence des inégalités sociales dans lesquelles on vit à l'intérieur des pays du Nord qui pensaient avoir un système d'État social très développé et plus encore dans les pays du Sud dont on parle très peu mais qui sont très frappés par cette crise.
Sur l'évolution du capitalisme, celle que vous décrivez pas à pas sur plus de 2 siècles dans le film, est-ce que là on est à un tournant? Est-ce que les choses sont en train de bouger? Ce sera ma dernière question.
Alors, je pense que la crise épidémique de 2020, après la crise financière de 2008, oui, va sans doute faire partie des dates clés qui vont conduire à une redéfinition de notre système économique et de la façon dont on organise la mondialisation. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on a été, après la chute du communisme soviétique, pour simplifier, on a été très très loin dans une nouvelle forme de sacralisation de la concurrence, des marchés comme solution à tous les problèmes, et on se rend compte qu'on a été beaucoup trop loin dans cette dérégulation, dans cette montée des inégalités, et je pense, j'espère en tout cas, que cette crise va permettre de construire des nouvelles régulations collectives, mettre des limites au tout commercial, au tout marchand, essayer collectivement de construire un système économique qui soit à la fois plus équitable et plus durable.
Mais c'est la dire qu'on question
en est, on en de... est encore on en ouais. est encore loin ouais. on en est encore loin, et je pense qu'il y a tout un travail intellectuel politique à faire qui ne fait que commencer.
C'est la question de l'avenir, mais pour voir le passé, il y a donc ce film, Le Capital au 21e siècle, et je précise que même des gens qui pensent ne rien connaître à l'économie peuvent Absolument. Voir votre film. Ils Absolument. Seront peut-être pas d'accord, mais ils comprendront les mécanismes que vous décrivez. Thomas Piketty, merci, invité Écho de France Info ce soir.